France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Un mort, trois blessés dans une attaque au couteau dans un lycée de Nantes. L'auteur, lui-même élève dans l'établissement, a été interpellé. On fait le point dans un instant avec Mathieu Laurent. Des syndicalistes et des élus demandent la nationalisation d'ArcelorMittal. Le groupe sidérurgique veut supprimer plus de 600 emplois dans ses usines françaises. Dans l'actualité internationale, il y a ce regain de tension entre l'Inde et le Pakistan. New Delhi accuse Islamabad d'être derrière l'attentat contre les touristes au Cachemire indien. Attentat qui a fait 26 morts. Le dossier de ce journal consacré à l'une des principales personnalités du nouveau gouvernement en Syrie, Raed al-Saleh, l'ancien chef des casques blancs syriens, l'organisation humanitaire qui a sauvé des milliers de vies pendant la guerre civile. Enfin, nous évoquerons la création d'une commission mixte d'historiens franco-malgaches. Commission consacrée à la colonisation française de Madagascar. Une lycéenne est morte aujourd'hui à Nantes, tuée à coups de couteau dans l'enceinte même de son établissement, le collège-lycée Notre-Dame de toute Z. Trois autres lycéens ont été blessés dans cette attaque. L'auteur a été interpellé. Il s'agit d'un élève scolarisé dans l'établissement. Il avait rédigé une sorte de manifeste aux accents complotistes. Mathieu Laurent, que sait-on précisément à cette heure de ce drame ?
Selon les premiers éléments, l'élève est suspecté d'avoir poignardé des victimes lors d'un différend entre élèves. Des éléments que les investigations devront confirmer. Il s'en serait d'abord pris à une élève au deuxième étage de l'établissement. Il aura ensuite poignardé trois autres lycéens en redescendant avant d'être maîtrisé par des enseignants. C'est devant l'établissement, rapidement évacué, que Florian Cazola, d'ici Loire-Océan, a recueilli les témoignages suivants. D'abord celui de Tom, élève de terminale.
Il nous a envoyé un mail groupé à tout le collège et lycée réunis. Et dans ce mail, qui est assez incompréhensible, on voit un document de 13 pages où il nous parle de mondialisation, d'agression dans la mondialisation. Moi, j'ai pu parler avec deux élèves qui étaient dans sa classe. Et c'était un élève qui était assez bizarre depuis le début de l'année. Il aurait évoqué notamment du nazisme, etc. Donc, on comprend pas trop.
Ensuite, celui de Gaspard, élève de seconde.
On sait pas trop quoi, c'était sur le monde un peu pessimiste, des propos un peu, en gros, spéciaux. Et puis depuis quelques temps, il y avait des espèces de croix qui étaient faites sur des endroits dans les toilettes, par exemple. Donc on pense que ça peut avoir un lien potentiellement, mais faudra voir après. Mais là, c'est juste, c'est un peu horrible, quoi.
Ici Loire-Océan s'est procuré ce mail que l'agresseur présumé a envoyé un peu après midi. Il est intitulé « L'action immunitaire » et il y est écrit, je cite, « Que la révolte est déjà la plus grande victoire que nous puissions atteindre. L'auteur y évoque la mondialisation qui décompose l'humain et un écocide généralisé ou encore le conditionnement social totalitaire. » Fin de citation. Le parquet national antiterroriste évalue la situation avant éventuellement de se saisir de l'enquête.
Mathieu Laurent et première réaction ce soir de François Bayrou. Le Premier ministre demande sous 4 semaines des propositions pour endiguer les violences de mineurs avec armes blanches. L'État doit-il intervenir pour sauver l'un des derniers fleurons de la sidérurgie française ? Le débat est relancé après l'annonce d'un plan social massif chez ArcelorMittal. 600 suppressions de postes envisagées dans 7 usines françaises du groupe qui emploie au total 7100 salariés. Des fonctions support et des activités de production seraient délocalisées en Inde, le pays du PDG Lakshmi Mittal. Bonsoir Wafia Kenish.
Bonsoir.
Des responsables syndicaux et des élus demandent aujourd'hui la nationalisation d'ArcelorMittal.
Oui, il y a 2 semaines, les Britanniques sont passés à l'acte. Ils ont adopté un projet de loi pour nationaliser les 2 derniers hauts fourneaux, mettant ainsi à l'abri presque 3000 emplois et reprenant la main sur l'acier. L'idée fait maintenant son chemin en France. Franck Dhersin, sénateur des Hauts-de-France, au micro de nos confrères de France Info.
C'est une souveraineté. L'acier est souverain. Nous avons besoin de fabriquer de l'acier. Donc je le dis, moi je suis plutôt un homme de droite. Je le dis que si ça ne fonctionne pas, il faudra penser, comme les Anglais viennent de le faire, à nationaliser. Nous devons garder la fabrication de l'acier en France.
Ce que soutient aussi la CGT, David Blaise, délégué du syndicat Arcelor, est persuadé que le groupe va quitter l'Europe et rapidement. Il faut reprendre Amital et Hautfourneau comme l'ont fait les Italiens en 2024, explique-t-il.
En Italie, ils ont fait une nationalisation partielle. Donc ils ont bien compris que c'était une filière stratégique et qu'il fallait garder une filière acier dans leur pays. Du métal sans Mittal, c'est possible. Donc nous, on pense qu'il faut nationaliser. De toute façon, on a bien conscience que Mittal, il va se désengager de l'Europe. Là, il est en train de le faire petit à petit. Il le fait pas d'un coup parce que ça va être très violent. Mais il est en train de se préparer à l'horizon 2030 d'avoir des capacités de production en Inde ou au Brésil qui pourraient naturellement alimenter le territoire européen parce que aujourd'hui, au Brésil, ils produisent des aciers verts et dans le cadre d'un accord Mercosur, c'est des aciers qui seraient totalement détaxés s'ils arrivaient sur le territoire européen.
À gauche, François Ruffin estime lui aussi que l'État doit intervenir au capital.
Wafia Kenich, merci. Le commissaire européen à l'industrie, le français Stéphane Séjourné, exprime ce soir son incompréhension, car le plan de soutien de l'Union européenne à la filière sidérurgique répondait aux attentes d'ArcelorMittal, selon lui. Un plan qui prévoit notamment de réduire de 15% les importations européennes d'acier pour protéger la filière. Les pesticides menacent aussi les très jeunes enfants, affirme l'ANSES. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a mandaté un collectif d'experts indépendants pour évaluer les risques potentiels liés à ces produits. Les pesticides sont très utilisés dans l'agriculture, mais on les retrouve également dans des produits à usage domestique comme les insecticides. Et le risque existe pour les jeunes enfants, Véronique Roberotte.
Pour mener leurs travaux, les experts mandatés par l'ANSES ont principalement croisé les données disponibles sur les présomptions de lien entre exposition aux pesticides et pathologies humaines issues d'un travail mené au préalable par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et ils ont travaillé à partir de cette expertise de l'INSERM menée dans le monde entier, datant d'une dizaine d'années et mise à jour en 2021. Mais le collectif d'experts indépendants mandatés par l'ANSES ne s'est intéressé dans ses travaux qu'aux substances toujours homologuées dans l'Union européenne avec des usages toujours autorisés en France. Au terme de ce travail, l'ANSES est en mesure de lancer plusieurs alertes, autrement dit des situations de menace pour la santé humaine et notamment celle des jeunes enfants. Des troubles du comportement comme l'anxiété ou la dépression chez les enfants en lien avec une exposition prénatale aux pyréthrinoïdes, un insecticide, un répulsif pour moustiques, araignées, pour parasites. C'est l'alerte majeure lancée par l'ANSES. L'ANSES décrit des niveaux importants d'imprégnation de la population française aux pyréthrinoïdes. Les experts attirent tout particulièrement l'attention sur cette famille d'insecticides pour ses dégâts causés sur le cerveau du nourrisson ou de l'enfant à naître. Ils sont non seulement encore très utilisés en agriculture, mais aussi dans des traitements domestiques, traitements antiparasitaires pour chiens et chats, en application aussi sur les textiles et matériaux de construction. Les pyréthrinoïdes auraient, selon d'autres études plus récentes, un impact sur le neurodéveloppement de l'enfant, risque accru de retard du langage, troubles de l'attention, du comportement et spectre autistique.
L'Inde et le Pakistan sont à nouveau au bord de la rupture diplomatique ce soir. C'est l'attentat de mardi au Cachemire indien qui a mis le feu aux poudres. 26 morts dans l'attaque d'un groupe de touristes à Pahalgam par un commando armé. Il n'y a à cette heure aucune revendication, mais le premier ministre indien Narendra Modi accuse le Pakistan de complicité avec les terroristes. Islamabad dément toute implication et promet de riposter aux sanctions prises par l'Inde. À majorité musulmane, le Cachemire indien est revendiqué par le Pakistan. Koum Bastin nous appelle de Bangalore en Inde.
En 2019, Narendra Modi avait bombardé le Pakistan après une attaque contre des soldats indiens dans le Cachemire. C'est à nouveau vers le voisin musulman que les coups partent. Un traité sur la rivière Indus qui parcourt les deux pays a été suspendu et tous les citoyens pakistanais, probablement quelques milliers, ont été expulsés d'Inde. S'adressant à la foule, Narendra Modi s'est voulu grave et a utilisé l'anglais, fait rare, pour s'adresser au monde.
I say to the whole world. India will.
Les terroristes ont tué des innocents. Ils ont ciblé les plus pauvres. Il y a des centaines de milliers de nos compatriotes en souffrance. Je le dis au monde entier. L'Inde identifiera, traquera et punira tous les terroristes et leurs complices. Nous les pourchasserons jusqu'aux confins de la terre.
Deux terroristes ont déjà été tués en Inde, mais jusqu'où se poursuivra cette traque? Les services secrets indiens affirment que le groupe qui a frappé le Cachemire est hébergé au Pakistan. Islamabad dénonce des accusations sans fondement et avertit qu'un tarissement de la rivière Indus serait considéré comme un acte de guerre. La tension monte aussi en Inde. Plusieurs groupes extrémistes hindous ont émis des menaces de mort à l'égard des musulmans indiens.
Comme Bastin, notre correspondant en Inde. En Espagne, l'achat de munitions destinées à la Guardia Civile, les forces de l'ordre, suscite des tensions au sein du gouvernement de gauche. Il s'agit d'acheter 15 millions de balles à une entreprise israélienne. Pourtant, le Premier ministre Pedro Sanchez se pose en champion de la cause palestinienne. Après l'indignation de l'aile gauche de l'exécutif, il a ordonné de dénoncer le contrat, quitte à devoir indemniser l'entreprise. Mathieu de Taillac.
Il aura fallu 3 allers-retours pour renoncer aux munitions israéliennes. D'abord, Pedro Sanchez s'était engagé à ne rien acheter ni ne rien vendre à Israël en matière d'armement. Puis, en pleine vacances de Pâques, le ministère de l'Intérieur a essayé de valider l'achat de balles destinées à la garde civile. Sauf que la radio Cadena Ser a eu vent de l'opération. La représentante au gouvernement du parti de gauche, Schumar, s'en indigne. Cela va contre les accords signés avec le parti socialiste, a déclaré Yolanda Díaz.
C'est un viol flagrant de nos accords alors que l'on assiste en direct au génocide du peuple palestinien. Nous demandons donc une réaction immédiate et des explications de comment cela a pu se produire.
Les services juridiques préviennent alors, en cas de dénonciation de l'accord, il faudra payer une amende de plusieurs millions d'euros. Mais finalement, le chef du gouvernement annonce par communiqué renoncer aux balles de la garde civile. Les partis de la coalition progressiste sont fermement engagés pour la cause palestinienne et la paix au Proche-Orient, est-il écrit dans le texte. C'est pourquoi, depuis le 7 octobre 2023, l'Espagne n'achète ni ne vend d'armement aux entreprises israéliennes. Fin de citation. Reste à connaître la portée de cette position de principe. L'armée espagnole utilise des missiles antiaériens, des désignateurs laser ou encore des lance-roquettes de technologie israélienne, rappelle le journal El País. Les contrats dépassent cette fois-ci le milliard d'euros.
Le dossier de la rédaction nous emmène en Syrie ce soir. Après avoir renversé le régime Assad, le nouveau président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, insiste sur la nécessité de préserver la paix civile dans le pays. Une paix menacée par les massacres contre la communauté alaouite début mars. Parmi les quelques personnalités fédératrices présentes dans le gouvernement, il y a Raed al-Saleh, l'ancien chef des casques blancs syriens. Ce responsable humanitaire hérite du nouveau ministère de la gestion des urgences et des catastrophes. Notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin, nous dresse son portrait.
29 mars 2025, un homme au costume, crâne rasé, prend la parole au palais du peuple de Damas. Durant 3 minutes, il évoque le chemin parcouru par son pays, celui qui reste à faire, parle des immenses défis, des espoirs, surtout après tant de sacrifices. Cet homme, c'est Raed al-Saleh, et contrairement à d'autres ministres nommés ce soir-là, son visage est loin d'être inconnu des Syriens. Une semaine à peine avant son discours, il était encore à la tête des Casques Blancs, la célèbre organisation humanitaire syrienne.
Les casques blancs syriens ne s'attendaient pas à faire une si macabre découverte.
Lui et tous les autres ont, durant les 14 années de guerre, sous les décombres et les bombardements, sauvé des milliers de vies, de femmes, d'hommes et d'enfants.
Après la chute du régime, j'ai senti que ma mission était terminée, qu'il était temps de rentrer à la maison, de voir ma femme et mes enfants. Durant toutes ces années, je ne les ai pas vus grandir.
Raed al-Saleh, né d'une famille populaire près d'Idlib, ancien marchand de produits électroniques, n'imagine alors pas que par la politique, il se fera retenir. 25 jours après la chute du régime, il rencontre Ahmed al-Shara, le nouveau président par intérim. Il lui suggère alors la création d'une commission pour la gestion des urgences et des catastrophes. Ce n'est pas d'une commission dont nous avons besoin, mais d'un ministère, lui répond le président. Et pour cela, qui de mieux que les casques blancs?
Il y a des jours où j'étais pour, des jours où j'étais contre. J'ai entendu dire que beaucoup de personnes déclinaient la proposition de rejoindre le gouvernement car le pays n'est pas assez stable, car il n'y a pas assez d'argent. Moi, j'ai senti que j'avais une responsabilité. Cela fait 10 ans que je suis dans la peau de Raed al-Saleh, que tout le monde adore. L'amour des gens, c'est positif, cela donne du courage, mais cela impose aussi une grande responsabilité.
Car oui, il faut le dire, Raed al-Saleh nage dans la popularité. Par ses amis, il est décrit comme un homme dévoué, un homme doux, drôle, bien que réservé, par les Syriens comme un héros, parfois même comme une rockstar. Alors, quand il reçoit dans son bureau le centre des casques blancs à Damas, c'est au milieu des récompenses.
Il y en a 48 au total, peut-être. Je me rappelle de tout. Ça, c'est de la part de la défense civile française. Et ça, c'est l'Oscar du film, Les Casques Blancs, diffusé sur Netflix.
10 jours que Raed El Saleh est ministre et déjà il ne dort que 3 heures par nuit. La priorité, c'est construire un réseau national de réponse aux urgences et aux catastrophes. Tout cela dans un pays exsangue, un pays ruiné. Lui-même sera-t-il payé ?
Je ne sais pas, je vous assure, je ne sais pas, je n'ai pas encore demandé.
Entre ses réunions avec les directorats, les préfets, ses rencontres avec les Européens et les Turcs, entre ses visites familiales, le nouveau ministre trouve tout de même le temps de continuer à étudier. Bientôt, il soutiendra un mémoire de recherche en Turquie à l'université de Mardin. Mais l'urgence du moment, dit-il,
c'est de reconstruire le lien entre la population et l'État. La vérité, c'est que je suis optimiste parce que nous avons déjà réalisé l'impossible. Personne ne pensait possible la chute du régime de Bachar al-Assad. Alors certes, la reconstruction de la Syrie, c'est difficile, mais celui qui a réalisé l'impossible peut tout à fait affronter quelque chose de difficile.
Lorsqu'on lui demande si être nommé ministre est un nouveau trophée,
c'est pas une récompense, c'est une responsabilité.
Par la responsabilité de sauveteur à ministre, Raed El Saleh s'est toujours fait rattraper.
Voilà pour ce reportage en Syrie de Manon Chaplin. La France ne s'excuse pas pour la colonisation de Madagascar, mais elle crée les conditions pour un pardon ultérieur. Voilà le bilan que l'on peut tirer de la visite d'Emmanuel Macron dans le pays. Le président français devait restituer aux Malgaches le crâne d'un roi décapité par les troupes coloniales françaises. La restitution interviendra plus tard en raison de dissensions entre les héritiers du souverain. En revanche, juste avant de reprendre l'avion pour Paris, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens sur la colonisation française. On retrouve à Madagascar Sarah Teto.
Les historiens malgaches l'avaient demandé, ils ont été entendus. Face à la presse, en fin d'après-midi, juste avant de reprendre l'avion qui le ramène à Paris, Emmanuel Macron a annoncé avoir décidé ce matin, avec son homologue le président Andrzej Zwelln, d'installer une commission mixte franco-malgache d'historiens, notamment pour faire la lumière sur le massacre de mars 47 et des répressions d'insurgés au moment de la décolonisation. Les atrocités qui ont été commises à cette époque restent encore une plaie très forte dans l'histoire de Madagascar, a expliqué Emmanuel Macron. C'est aussi un moment de notre histoire commune qu'il faut rouvrir, a-t-il martelé. Sans plus donner de détails, le président français a donc annoncé la mise en place de travaux communs. Une déclaration qui intervient une semaine jour pour jour après l'ouverture de la commission mixte franco-haïtienne et qui s'inscrit dans la politique mémorielle engagée par Paris depuis 2017. De cette démarche, les historiens malgaches, eux, attendent surtout de la France l'ouverture des archives de la police coloniale et judiciaire de l'époque qui pourrait permettre de lever le voile, notamment sur le nombre réel de victimes des répressions. Selon les sources, les chiffres varient entre 10 000 et 100 000 morts.
Sarah Teto à Madagascar, à Antananarivo, la capitale. Emmanuel Macron a aussi assisté à un sommet de la commission de l'océan Indien. Il a une nouvelle fois plaidé en faveur de l'intégration de Mayotte à cette commission. Les Comores s'y refusent car pour leur ministre des Affaires étrangères, Mayotte est comorienne. En 1975, lors de l'indépendance de l'archipel, la population mahoraise avait choisi de rester française. C'est le principal opposant au pouvoir en place en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, est de passage à Paris pour dénoncer le rejet de sa candidature à la prochaine élection présidentielle dans 6 mois. On lui reproche sa double nationalité franco-ivoirienne. Ses partisans étaient appelés à manifester aujourd'hui à Abidjan. Lisa Vili, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez rencontré Tidiane Thiam dans son appartement parisien.
Oui, il n'est plus français depuis le mois de mars, mais il possède toujours une résidence à Paris. C'est là qu'il répond aux interviews. Pour lui, la décision de l'exclure de la course à la présidence est avant tout politique, mais il continuera avec le soutien de son parti et la conviction que les Ivoiriens méritent une alternance pacifique.
Après 65 ans d'indépendance, je crois qu'il est temps. Il ne s'agit pas tellement de moi, il s'agit que les Ivoiriens simplement soient libres de choisir. Nous n'abandonnerons jamais. C'est une question de dignité. Le fait que nos droits fondamentaux sont bafoués, ça suffit. Il y a aujourd'hui une génération d'Ivoiriens, une jeunesse qui ne peut plus l'accepter et il va falloir que ce pouvoir le comprenne et l'accepte.
Pour se maintenir dans la course, l'ancien banquier international emploiera tous les moyens légaux. Il est déjà en contact avec la Cour pénale internationale, inquiet du risque de violence. Deux de ses proches sont menacés de mort. Tidiane Thiam aimerait d'ailleurs entendre la France défendre la démocratie en Afrique.
Il serait bon pour l'image internationale de la France qu'elle se préoccupe un peu plus de ce qui se passe dans ces pays. Bien sûr, sans commettre d'ingérence. Tout ce qu'on demande, c'est l'énoncé de principes universels. qui sont que les gens doivent avoir le droit de manifester sans crainte pour leur vie, s'exprimer sans être emprisonnés.
Les ennuis judiciaires du candidat ne sont pas terminés. Un tribunal d'Abidjan doit se pencher en mai sur une procédure qui pourrait le démettre de ses fonctions de président de son parti cette fois.
Lisa Vili, merci. Plusieurs autres candidats de l'opposition ivoirienne sont aussi exclus de la course, dont l'ancien président Laurent Gbagbo. L'actuel président Alassane Ouattara n'a pas encore indiqué s'il comptait ou non briguer un quatrième mandat interdit par la constitution ivoirienne. On termine avec un mot du temps demain. Il s'améliore, les éclaircies domineront dans l'ensemble, hormis quelques averses l'après-midi sur le nord-est et les Alpes. Les températures minimales seront contrastées de 1 à 14 degrés selon les régions. L'après-midi, il fera entre 13 et 24 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia à la technique Nicolas Delmas.